Il y a 280 millions de voitures en Europe. Si on les empile les unes sur les autres, elles font 1,50 m de haut en moyenne. Si on les empile les unes sur les autres, c'est exactement la distance Terre-Lune. Et c'est ce qu'on nous explique qu'on va devoir jeter d'ici à 2050. Pas 35. 50, c'est neutralité carbone. Donc on dit, il faut tout changer. Mais c'est juste ni physiquement jouable, ni socialement acceptable.
Julien. Ça va?
Eh, c'est pas beau ça?
C'est pas beau d'être dans une Twingo. On va aborder aujourd'hui un sujet qui nous tient à cœur, qui est un sujet un peu complet, vous allez voir, je dirais complexe. Plus on regarde le marché auto, toi et moi, plus on se pose la question du prix des voitures.
Toutes les voitures qu'on a en essai, à chaque fois, on se fait la réflexion. Je pense que vous le voyez dans les vidéos, on en parle souvent en introduction. Elles sont toujours à 50 000 euros.
C'est trop cher.
Nous, on a deux bagnoles à 10 000. Voilà. Et on voit dans les commentaires, même quand on dit des fois qu'une voiture à 25 000 est abordable, vous nous dites, ouais, c'est cher, tout le monde n'a pas 30 000 euros.
Ça, c'est le premier point. Il y a un délirium sur le prix des voitures neuves. Il y a un deuxième point qui est l'arrivée des ZFE qui va mettre dehors des villes, beaucoup de voitures en circulation, plus de 8 millions, peu importe les chiffres, mais c'est de cet ordre-là. Et en gros, on se dit, mais comment les gens qui ont peu de moyens, mais même les autres, vont faire pour pouvoir aller travailler tous les jours de chez eux, qui ont besoin de rentrer dans des villes?
Donc, j'ai acheté cette Twingo à la place de la Cité 201.
Bah, why not? Mais elle est plus éligible. Et il se trouve qu'on a entendu parler de L'Or Moto, grâce à Thibaut Châtel, que je salue. Et c'est une société qui a été créée il y a à peine 2 ans. Et on va aller voir son fondateur, qui s'appelle Sébastien Rollo, et qui a une approche assez complète de se dire comment créer une voiture durable, accessible au plus grand nombre et qui soit, parce que c'est le troisième point dans la réflexion, comment faire quelque chose qui soit vertueux, on va dire, sans faire de grand langage écologique, mais comment essayer de ne pas gaspiller les matières.
Et il va très loin.
Et lui, il va très très loin. Parce qu'en fait, il redonne une seconde vie à des Twingo. Là, on est dans une Twingo ancienne.
Qui a des voyants allumés, voilà. Qui est destinée à la casse. Voilà. Et cette petite, elle a une seconde vie.
Et on va aller le voir. Il est en Normandie, près de Lisieux. Et vous allez voir, ouais. Il a vraiment fait, il a réfléchi à tout.
Au boulon près, c'est incroyable.
Tout, et c'est très impressionnant.
On y va?
On y va. Bonjour Sébastien.
Bonjour Renaud.
Je suis très très content d'être là.
Merci.
On va aller visiter votre atelier.
Ouais, je débranche la voiture et puis je vous retrouve à l'intérieur.
Voilà, et là on va découvrir tous les secrets de cette Twingo. Elle est comme neuve.
Elle est comme neuve.
À tout de suite. Sébastien.
Renaud.
Depuis le temps qu'on se parle au téléphone.
Oui.
On est chez toi, dans ton atelier. Oui. L'Or Moto, il a été créé il y a combien de temps l'atelier?
Alors, L'Or Moto, c'est une société, c'est un néoconstructeur automobile qui a été créé le 24 juillet 2020.
Donc c'est tout récent.
C'est un bébé Covid.
Alors, tu vas nous expliquer toute l'histoire, mais moi, il y a 3 choses quand on a discuté ensemble qui m'ont vraiment frappé. Tu m'as dit, quand j'ai réfléchi à cette société, parce que tu ne viens pas de l'univers de l'auto,
pas hein, du tout.
Tu étais dans l'audit, dans le conseil, ouais. Tu t'es dit, moi, il y a un gros problème de durabilité. Je veux créer une voiture durable. Et deux, je veux créer une voiture qui soit accessible au plus grand nombre parce que voilà, le système, il ne fonctionne plus, les voitures sont trop chères, on doit repenser notre modèle.
Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous fallait une voiture extrêmement populaire, connue dans l'imaginaire de tous, n'ayant que peu de défauts techniques, peu d'électronique parce que la transformation nous aurait coûté beaucoup trop cher et surtout pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. C'était extrêmement important. Donc on a choisi la Twingo, il n'aura échappé à personne qu'elle a été présentée au Salon de l'Auto en 1992. Et nous, en 2022, on l'a présentée pour ses 30 ans au Mondial de l'Auto. Et sa commercialisation, ça sera au printemps 2023.
Alors, tu l'électrifies, mais ce n'est pas un simple rétrofit, parce que vous avez beaucoup réfléchi pour dire comment
on peut rendre toute la noblesse à sa voiture.
L'idée d'arriver avec une voiture et de juste changer le moteur électrique, si votre voiture est en mauvais état, vous repartez juste avec une voiture en mauvais état électrique. Nous, on considère que si on veut faire un travail de qualité et en sécurité, il faut intégralement rénover le véhicule du point de vue de la partie mécanique. Donc ça, c'est la base. Mais quand on conduit ce genre de voiture, en 2-3 jours, on a oublié que c'était une voiture électrique. La seule chose qui reste, c'est dans quoi sommes-nous assis. Et si on ne veut pas être assis dans une vieille bagnole, entre guillemets, hein, chez POA, on est très bagnolard, on s'est posé la question de qu'est-ce qui fait l'attractivité d'une voiture. Et l'attractivité d'une voiture, c'est sa modernité, son aspect intérieur, son esthétique, c'est là où on passe le plus de temps. Il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit moderne, il faut qu'on ait envie d'y être, parce que c'est là où on passe beaucoup de temps pour aller.
Quel est le goût, la saveur d'une voiture moderne, j'ai envie de dire, presque, tu disais.
La grande question, ça a été, est-ce qu'avec une voiture qui a 20 ans, on peut faire une voiture moderne?
Alors, pour nous expliquer ça, tu nous as montré déjà tout ce que vous enlevez quand les voitures arrivent. Donc, vous allez récupérer. Déjà, vous récupérez les voitures, c'est que des Twingo qui ont 4 airbags, ABS, etc. Hein. Vous
Absolument.
Prenez que les dernières générations.
Oui, à partir de 2003. On pourrait les prendre à partir de 2000, mais une petite astuce D'accord. technique
Alors
2003.
Là, il y a toute la partie, c'est ce que vous enlevez.
Alors, une petite partie, c'est juste pour montrer les choses telles qu'elles sont. Les plastiques. On a sorti, là, on a un tableau de bord de Twingo qui est d'origine. Il n'a pas été nettoyé, il est comme ça. Il y a encore de la poussière un peu partout, encore une histoire d'hygiène. Donc, tous les plastiques de nos voitures sont nettoyés, dégraissés, repeints.
En noir, on va voir. Ouais, c'est très noir. Impressionnant dans la voiture. Juste 5 minutes dans la voiture, justement, ce que ça donne. On reviendra, parce qu'il y a des grosses parties, c'est l'électrification, mais que le public comprenne ce que c'est qu'un tableau de bord repeint et un fauteuil remis à jour et des moquettes... Voilà, et le fameux l'ensemble en lin, la peinture noire, on a l'impression que c'est carrément neuf, et les fauteuils sont standardisés comme ça, mais on voit bien que la mousse est plus dure, etc. Et ça, elles seront toutes comme ça, hein.
Ouais.
C'est au niveau de
ouais.
la...
C'est on néo-constructeur. Pourquoi néo-constructeur? Parce que le dessin original de l'auto, c'est une Renault Twingo. Ouais. D'accord. Mais nous, on va standardiser tout ce que nous sommes en droit de standardiser et tout ce que nous pensons, compte tenu de ce droit, qu'il est possible de faire. Donc on s'est intéressé à toutes ces questions. Et certes, il reste des Twingo avec des intérieurs cuir en super état, etc. Mais ce n'est pas notre objet. Notre objet, c'est de refabriquer des voitures qui vont avoir une très longue durée de vie.
Oui,
pragmatisme.
Un petit détail pour que les gens comprennent. On te demandait, mais pourquoi la coiffe d'airbag est grise et les boutons sont gris?
Alors, quand on repeint les plastiques, le procédé est plutôt complexe, même si c'est simple. C'est qu'il faut les nettoyer, les dégraisser, les peindre et les cuire. Il faut cuire la peinture pour qu'elle ait une bonne tenue dans le temps. Le problème des airbags, c'est que c'est des explosifs.
Et ça passe pas à la cuisson, tu m'as dit.
Et mettre un explosif dans un four, c'est jamais une bonne idée.
Je continue, parce que il y en a beaucoup à dire, mais là, on voit une voiture, vous mettez toujours la caisse à nu, vous enlevez le moteur, on en a
ouais.
parlé tout à l'heure, forcément. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vous développez, on va aller voir tout à l'heure, votre propre, c'est pas que vous développez vos propres batteries, mais ce qu'on appelle le casing, là où vous les mettez, vous les assemblez, vous allez très loin, quoi.
Chez leur moto, on fabrique tout ce qu'on trouve pas sur une étagère.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va pas, on a les batteries, on s'est posé la question de où on allait les trouver, et que quand on a pris contact avec un certain nombre de fournisseurs, on a trouvé les prix beaucoup trop élevés. Et on s'est dit, si c'est ça, on va les fabriquer, on va apprendre à les fabriquer. Pourquoi? Parce que c'est un élément clé. Dans une voiture qui est conçue pour être électrique, vous concevez l'espace. Nous, on ne peut utiliser que l'espace disponible. Donc, le casing de la batterie, sa forme, son volume, sa puissance, est quelque chose qu'on doit maîtriser. Parce que si demain, on fait une autre voiture que la Twingo, il faudra qu'on redéfinisse un casing adapté à cette même voiture. Donc, il faut qu'on soit en mesure de le penser pour occuper l'espace le plus intelligemment possible. Ouais. Elle est dispatchée en 4 endroits différents. Il y en a une qui est ici, à l'avant de la voiture. Il y en a une qui va être, on peut voir, parce que...
Dans le tunnel.
Là, c'est plus facile parce qu'il n'y a plus rien dans cette voiture. Donc on voit bien le tunnel et le volume qu'il représente. Quand il y a les sièges, etc., on ne se rend pas bien compte. Mais il y en a une au milieu, ici, là où il y a le trou. Et il y en a deux à la place du réservoir. Deux là, et une là dessous.
On va aller voir les packs batteries que tu nous montrais là au bout, la façon dont vous les assemblez. Pareil, alors tu disais, bon, bah, elles sont obligées de venir de Chine pour le moment, parce qu'on n'a pas d'autres. Mais c'est très important. Tu m'as dit, c'est des lithium fer phosphate, c'est ça? Tu m'as dit, du coup, elles n'ont pas de nickel.
LFP. Ben, elles n'ont pas de terre rare, en fait.
Elles n'ont pas de terre rare. Ouais. C'est déjà. Enfin, pareil, ça fait partie de votre réflexion de dire, bon, ben, OK, comment donc, on peut avoir quelque chose.
On voulait des batteries sans terre rare, on voulait des batteries qui n'aient pas de problème de refroidissement. Donc, c'est des batteries qui ne sont pas des batteries haute performance. De notre côté, elles sont largement suffisantes. Notre idée n'est pas de mettre 300 kg de batterie dans la Twingo, ça ne rentre pas.
Ce n'est pas une voiture qui fera Paris-Marseille.
Non, ça, elle n'est pas faite pour ça. Ce qu'il faut voir, c'est que plus on met de choses, plus ça pèse lourd, plus ça pèse lourd, plus ça consomme et plus ça coûte. Le corollaire, c'est que moins on transforme de matière, moins on utilise d'énergie, mais on fabrique toujours un produit avec moins de déchets et moins de CO2. C'est ça qu'on veut faire.
Toi, ça fait plus d'un an que tu travailles sur l'homologation de cette Twingo. Vous êtes presque au bord, donc tu connais tous les détails. Tu travailles avec, je ne sais pas c'est, comment on appelle ça d'ailleurs, l'organisme qui homologue.
Celui qui pilote l'homologation et qui signe en bas de la page, c'est l'État, c'est le CNRV, voilà, donc le Centre National de Réception des Véhicules.
Bon, bah, tu es en contact avec
eux. Je suis en contact avec
eux. Voilà, et vous êtes très avancé sur cette voiture. Il faut savoir qu'une homologation, ça coûte très cher, hein, c'est presque 150 000 euros.
Ouais, je pense que c'est un bon 150 000 euros.
Tu dis, ça prend beaucoup de temps, ils gardent la voiture 2 mois, c'est ça?
Non, c'est pas que ça prend du temps, c'est qu'il faut être très préparé. En fait, c'est pas très compliqué, mais il faut être très préparé. Il faut avoir bien bossé le dossier en amont. Nous, on a eu la chance, les essais se font à l'UTAC.
J'ai bien entendu l'UTAC quand même.
L'UTAC, qui est un laboratoire d'essais, mais c'est pas eux qui délivrent les rapports d'essais.
D'accord.
Et donc, on passe des essais. Et ces rapports d'essai sont condensés, sont transmis au CNRV pour validation du process complet, de tout ce qui doit être fait. Donc on a la puissance moteur, on a la compatibilité électromagnétique, on a la sécurité électrique, on a les masses et dimensions, on a une dizaine de choses, le freinage. Il y a un essai freinage qui est fait pour vérifier que la voiture freine aussi bien qu'avant.
Et ça, vous avez passé pratiquement l'ensemble de ces...
On a fait tous les essais, il y en a qu'on refera, parce qu'il y a des choses qui vont changer, on sait qu'elles vont changer, mais on est rentré dans le processus, maintenant on sait comment ça marche, et on sait qu'on va en sortir. Puisqu'on est rentré dedans, on ne peut qu'en sortir. Donc ici, on a le chargeur.
C'est important d'en parler du chargeur.
Ouais, c'est un chargeur 3 kW qu'on branche sur une prise de courant normale.
Voilà.
Elle est compatible type 2 de l'autre côté, mais ça ne chargera pas plus vite.
Ça aussi, c'est un choix. Hein,
Oui, parce qu'on aurait mis un chargeur 6 kW, il aurait coûté beaucoup plus cher.
Voilà.
Et ce n'était pas dans l'utilité. Je veux dire, qu'on charge complètement la batterie en 5 heures ou en 3, il n'y avait pas d'intérêt spécifique.
D'accord. Donc le chargeur.
Ici, on a ce qui nous permet d'avoir du 12 volts dans la voiture. On a alimenté la batterie 12 volts. On la conserve, la batterie 12 volts. Tout le monde me dit, pourquoi vous conservez la batterie 12 volts? Ben, en fait, parce que tout l'intérieur de la voiture fonctionne en 12 volts. Et si on alimentait en direct, on aurait des pics et ça ne marcherait pas. On grillerait plein de trucs. Ici, on a ce qu'on appelle l'inverteur. Donc, c'est la plus grosse partie de l'électronique de puissance. C'est elle qui transforme, en fait, le courant électrique de la batterie pour alimenter le moteur. D'accord. Et puis ici, on a quelque chose de notre fabrication qu'on appelle le PDU, la Power Distribution Unit, qui est en fait une boîte de jonction dans laquelle tout se fait la jonction de toute la haute tension du véhicule. Et dessous, on a le moteur et la transmission, mais on retournera les voir là-bas parce que c'est probablement la plus belle pièce mécanique.
Allons-y.
La plus belle pièce mécanique de la voiture, c'est une grande fierté. Donc, on a le avant-après. Hein, ça, c'est ce qu'on retire. Et ça, c'est ce qu'on remet et c'est exactement ce qui fait avancer la voiture.
D'accord.
Donc ici, ce gros cylindre-là, c'est le moteur. Et ça, c'est la transmission. Et dans cette transmission, il y a une petite particularité, c'est qu'on ne voulait pas changer toute la transmission de la voiture, les cardans, etc. Donc on prend un morceau...
Sinon, ça changeait toute l'homologation.
Ouais, ça change plein de trucs derrière. Et donc, on prend un morceau de la boîte de vitesse, qui est le morceau qu'il y a là, à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle le différentiel. Donc on ouvre la boîte de vitesse, on prend le différentiel et on le remonte là-dedans, ce qui nous permet de ne pas changer la transmission de la voiture. Donc on réutilise la boîte, en fait. Et ça, c'est un réducteur. Toutes les voitures modernes électriques ont ce type de transmission.
Alors on va aller voir, comme tu dis, tu upgrades aussi la voiture. Ça a beaucoup plu à Julien, mais il y a des détecteurs d'angle mort. Il faut que la sécurité soit là.
Qu'est-ce que c'est qu'une voiture moderne?
Voilà. Donc elles ont toutes 4 airbags et ABS, mais ça c'est parce que vous prenez que des modèles là. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce que vous rajoutez? Alors, il y a des capteurs.
Alors, le truc visible qu'on peut voir à l'extérieur de la voiture ici, c'est les radars de recul.
D'accord.
Ça n'existait pas sur les Twingo et aujourd'hui en ville, c'est un équipement extrêmement standard. Ça évite de reculer et d'abîmer la voiture. Durabilité. Alors, tout le monde ne fera pas attention, mais on ne peut pas dire qu'on n'entend pas le bruit. Le truc qu'on ne voit pas là, c'est que dans le pare-choc, il y a un détecteur d'angle mort. Il y en a un là et un de l'autre côté. Pourquoi est-ce que c'était pour nous intéressant? Parce que la ville a changé. La ville s'est équipée en masse de vélos électriques, de trottinettes, de tout un tas de trucs qui roulent à une, deux, trois ou quatre roues. Et en fait, la ville est devenue une espèce de jungle où tous ces objets s'entrecroisent partout dans la circulation. Et je me suis dit, est-ce qu'il est possible de trouver sur le marché un équipement de seconde monte qui nous permettrait d'anticiper ce type de problème? Et j'ai trouvé, donc chez un équipementier français, un équipement de seconde monte qui est un détecteur d'angle mort. Donc quand on passe, ben, y a des lumières qui s'allument à droite ou à gauche. En fonction de c'est dangereux ou pas dangereux. Voilà. Donc ça, c'est l'écran qu'on est en train de finir de développer. Il y a plein d'informations qui deviennent légales. Typiquement, dans une voiture électrique, aujourd'hui, si vous avez le contact et que vous ouvrez une portière, on doit avoir un signal lumineux ou auditif. Il ne faut pas que la communication soit un danger. On sait tous qu'on vit avec notre téléphone et que dès qu'on a un appel, machin, on répond. Donc il faut que la voiture prenne la com, comme dans n'importe quelle voiture moderne, encore une fois. Donc il y a un chargeur à induction ici, il y en a un autre dans le pontet, juste là. Toc, juste là.
D'accord, ouais.
Toc. Mais... la radio reste un sujet, alors elle est très old school, finalement moi j'aime bien. Mais aujourd'hui on peut avoir à cet endroit-là un appareil beaucoup plus moderne et pertinent. Qu'on peut sourcer chez plein d'équipementiers. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore décidé de ce qu'on voulait mettre réellement.
Minimum. On est bien d'accord. Donc, vous les louerez, on aura une carte grise où la voiture est considérée comme une motorisation électrique.
Oui,
donc elle est
le champ carburant.
Ouais,
le champ carburant va changer.
Partout.
Donc ça, c'est très important. Donc nous, on pense aujourd'hui être capable de pouvoir mettre en place un système de location à 200 euros par mois.
Il faudrait garder la voiture combien de temps si je signe avec, parce que c'est... Alors, il y a quand même, faut quand même s'engager un minimum, au moins 6 mois, tu disais de...
ouais, je pense plutôt un an, ouais. Qu'on ne mette pas la voiture sur la route pour rien. L'idée, c'est le forfait de téléphone. Ouais. C'est, tu prends un forfait de téléphone, tu t'engages pour un an, puis tu es libre de changer. Si on a bien travaillé, les gens ne nous rendront pas nos voitures.
D'accord. On va peut-être finir par faire un petit tour dans la voiture, et puis on terminera la conversation intérieure.
Tu as conscience que Julien, tu conduis pour l'histoire.
Hein. Ouais.
La voiture pour tous.
Je suis content parce que ça va 2 minutes là. Vous dites les petits trucs, comment ça fonctionne et tout, mais il y a un moment on veut rouler. Hein. Le frein à main, il est normal.
Ouais.
C'est quoi ce petit bouton?
Donc ça, c'est le frein moteur qui sert aussi de régénération.
D'accord.
Donc 0, il n'y en a pas.
Ok.
1, un petit peu. Et 2, un peu plus fort.
Ok. Et les boutons en dessous?
C'est ce qui permet d'allumer le chauffage, les bulles thermiques dont je vous ai parlé. Donc celui-là, c'est côté conducteur.
Mais moi, la bulle.
C'est juste sur le côté ou c'est aussi le siège?
Non, il y aura le siège, là, il n'est pas branché parce que ce siège-là n'est pas équipé des nappes chauffantes, mais il le sera en série. Et là, ça va chauffer là aussi.
Donc j'ai aussi la poignée de ce que tu parlais, la contreporte. Ici,
la contreporte, oui.
Okay,
donc ça, c'est pour le dégivrage accéléré. Donc il y a ici, ça permet de dégivrer la partie. Comme c'est une vitre et que ça, on va chauffer, ça va vachement réfléchir et toute la partie basse va s'accélérer. Et puis ça, c'est le côté passager.
Okay. Moi, ce que je trouve génial, c'est ces plastiques peints noirs. Ça lui donne un côté hyper haut de gamme.
On dirait qu'elle a toujours été comme ça.
Ouais,
je dis ça dans le bon sens du terme. Ouais. Vraiment. En fait, tu ne la vois... Quand on monte dans l'autre qui est grise, tu dis il y a un problème. Quoi. Non, mais et tout le biton marche bien. Et c'est vrai que l'autoradio, bah, finalement, est aussi biton. Donc.
Alors, c'est quoi la capacité de batterie hein?
Donc, la capacité de la batterie, c'est 16 kWh.
D'accord.
Donc, on estime que c'est une voiture qui doit consommer... le double, on aura les vrais chiffres au moment du WLTP, quand ils sortiront. Donc aujourd'hui, c'est des projections. Je pense que c'est une voiture qui aura entre 100 et 120 km d'autonomie. On a une consommation qui devrait être de l'ordre de 12-13 kWh au 100, en réel. Hein.
La voiture, du coup, il y avait une histoire de... Est-ce qu'elle est beaucoup plus lourde qu'à l'origine ou elle doit rester dans une marge de poids?
Non, non, il y a une marge de poids. On ne peut pas excéder de plus la masse initiale du véhicule de plus de 20%. Avec une variation maximale de 10% sur chaque essieu.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est très contraint. Tout ça, parce que et c'est normal, hein, le législateur ne voulait pas qu'on puisse ou qu'on doive changer adapter les suspensions ou le système de freinage. Le fait de rester dans cette enveloppe permet de toucher ni à l'un ni à l'autre.
Tu m'as dit aussi que les batteries à l'avant, elles doivent être à 44 cm.
Du bord extérieur de la voiture.
Et à l'arrière, c'est 30 cm.
Oui, absolument. C'est pour les chocs. C'est ce qui a été défini comme étant le... je ne sais pas si c'est la distance d'enfoncement maximale, hein, mais le législateur a toutes ces normes en tête. Et tant qu'on ne touche pas encore une fois à la structure du véhicule, hein, le véhicule a une structure à base de longes rondes, d'emboutissage, etc. Si on ne touche pas à la structure de la voiture, eh ben, on respecte ça.
Julien, tu sens des grosses différences?
Alors, avant de parler de l'électrification, il y a des choses. Ce qui est très intéressant, et c'était cool d'essayer la thermique qui était vieille et que vous allez transformer par la suite. Première chose, c'est l'assise. C'est plus ferme, mais dans le bon sens du terme. On sent que l'assise là-bas, elle est fatiguée et que bon, elle donne ce qu'elle peut, mais voilà, elle a 20 ans, ma mère.
Là, on dirait une voiture neuve.
Franchement, ouais. Ouais. Deuxième chose, il y a aussi tout ce qui est roulement. On sent que, bah voilà, en gros, c'est pas juste vous faites une peinture, vous mettez un moteur électrique, ça s'arrête là. Mais le truc qui me vient vraiment en premier, c'est le volant. On a tout de suite l'impression d'avoir une voiture neuve avec le volant parce que le volant d'avant, tu captais que c'était le plastique granulé un peu sale et tout. Tu as du mal à mettre presque tes mains. Là, tu te dis, ok, tu as une voiture neuve. Et après, ça aussi, c'est vachement bien d'avoir essayé la thermique avant. C'était pas prévu, c'est pour ça que je suis très content qu'on ait essayé la thermique avant. Quand on a fait l'intro, on était à 70. Alors on va travailler un peu le son, mais on s'entendait pas très bien. C'est-à-dire que j'avais beau être en cinquième, j'avais l'impression que j'étais en troisième tellement ça fait du bruit. À 70 déjà, j'imagine à 110, ça, j'imagine pas. Et là, la voiture fait beaucoup moins de bruit. Et ça, c'est un truc auquel on pense pas aussi.
En fait, c'est ce qui fait que notre travail prend du sens. Alors, il y a tout ce que tu as dit sur le confort du siège et tout ce que je vous ai raconté auparavant, tu en prends conscience. C'est-à-dire que l'agrément de conduite, l'environnement dans lequel tu es, te dis, je suis pas dans une vieille bagnole.
Dans cette même montée, on a fait l'intro et j'avais eu du mal à te suivre.
Et là, tu peux doubler la voiture chez toi.
J'en ai encore.
Et t'en as plein.
Et j'ai failli me faire doubler par une voiture qui était très dangereuse, elle a failli faire un accident. Et là, je suis à 70 et j'en ai encore
sous le pied. Et t'en as plein sous le pied.
Parce que je peux appuyer et tiens, ça repart.
Ouais.
Quoi. Et
si t'as besoin de doubler.
C'est quoi sa vitesse, Maxi?
Alors aujourd'hui, ça c'est une très bonne question, Renaud, parce que...
J'en pose beaucoup, des tonnes, mais...
Alors, sa vitesse maxi aujourd'hui, c'est 130 km/h. D'accord. Il y a un débat. En fait, on a le droit de rouler sur autoroute à 130, donc on peut avoir besoin, de manière très ponctuelle, elle n'est pas faite pour ça. Mais il y a tout le débat sur limiter la vitesse à 110. Si la législation impose une limitation de vitesse à 110, j'ai aucune raison de laisser la voiture à 130.
Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui à quelques mois de l'homologation et c'est de passer en. D'avoir une usine pour en produire beaucoup?
Qu'est-ce qui nous manque? Alors, l'usine, on est en train de la choisir. Mm-hmm. C'est en train de se faire. C'est pas très loin d'ici. On veut faire rentrer des industriels qui vont nous aider à redévelopper des produits pour relocaliser de la production. Aujourd'hui, on achète des choses en Chine. Moi, je veux relocaliser cette production en France. Alors, pourquoi? C'est pas un mantra, c'est pas un dogme. C'est que je pense que comme la durabilité, la disponibilité de nos équipements va être à l'avenir critique. Et puis on pense que les produits qu'on peut développer peuvent servir toute l'industrie de la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques. Demain, si je veux faire une autre voiture, n'importe laquelle, du même gabarit, c'est maximum 10 semaines de développement.
Bravo, franchement. Ouais, mais tout est au boulon prêt, elle est coupée, tout est réfléchi. Vous étiez au Mondial il n'y a pas longtemps, vous avez fait des prototypes de plein de choses, vous ne les avez pas montrés, parce qu'en gros, vous ne les montrez que ce qui est de série.
Ouais.
Enfin, tout ça, franchement, chapeau, hein, parce que...
Sébastien, merci. Franchement, on va suivre avec attention l'évolution de leur moto, parce que on vous souhaite le meilleur, vous le méritez, on voit beaucoup de projets, et on trouve que avec Julien, le vôtre est un des plus aboutis, dans le détail. Et franchement, je trouve que c'est une solution qui coche toutes les cases. Donc, longue vie à leur moto. Et puis, on reviendra hein, quand il y aura l'usine et qu'il y aura ma Rolls Corniche. Voilà. non, mais franchement, bravo. Vive la Normandie. Vive le bon sens. Vive l'esprit français. Et vive la Twingo. T'as un mot de la fin, Julien ?
Abonnez-vous à peu près et encore bravo, vraiment.
Je te dis, abonnez-vous. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir consacré ta journée. Parce que,
Mais c'était un vrai plaisir de vous avoir. Moi, je suis un abonné fidèle de la chaîne depuis très longtemps.
C'est bien.
Et j'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup les sujets abordés, une vision un peu différente. Et puis l'esprit bagnolard, c'est sympa.
Merci Sébastien, merci à vous. À très bientôt sur POA. Ciao.
Je sais pas où il va, Victor.
Oui, il nous emmène au Havre.